C'est du côté de Courtlary que nous vous emmenons aujourd'hui dans notre émission économique, pas pour parler de chocolat, mais d'un autre symbole helvétique, la banque. Celle qui nous intéresse se trouve au bord de la route principale du village. Un hall succède au sas d'entrée avec sur la gauche quelques comptoirs. Une grande sculpture trône face à l'entrée accrochée au mur d'un petit coin aménagé en salle d'attente. Faite de bois brut, elle est couverte de gravures. Sur sa colonne centrale se répète sans fin le mot « agir », entouré de maximes de part et d'autre. On retiendra ici celle-ci. Ceux qui achètent le superflu finissent par vendre le nécessaire. Le temps de découvrir les lieux suffit et celui qui est mon invité pour venir à ma rencontre, il m'invite à le suivre dans un couloir dans lequel se trouvent quelques vestiges. On y aperçoit par exemple le premier coffre de la banque, une antique malle en bois de moins d'un mètre de large ou encore une colonne en pierre appartenant à l'édifice historique qui se trouvait auparavant à cet endroit. Passé ces curiosités, nous arrivons dans le bureau du directeur, une table de réunion pour accueillir les clients, des petites voitures sur un meuble, un vieux téléphone à cadran et quelques cadres en guise de décoration. Le lieu invite à la décontraction. Tout comme son occupant qui tranche avec le stéréotype du banquier costumé, ici la cravate n'est plus de rigueur, pas plus que le veston. Ce lieu qui brise les codes d'un milieu parfois très stéréotypé, c'est la caisse d'épargne de Courtlary et nous accueillons tout de suite son directeur, Rémi Desphilippis. Bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Alexandre Steiner.
Rémi Desphilippis, on parlera de codes vestimentaires plus tard, mais avant cela, on va s'intéresser à vous. Vous avez 53 ans et vous travaillez dans le domaine bancaire depuis votre apprentissage à Saint-Imier. Ce choix n'était pourtant pas le vôtre. Racontez-nous un peu ce début d'histoire de banque.
Exactement. Je n'étais pas destiné à entrer dans le monde bancaire au départ. À l'époque, on était plus axé à avoir une stabilité au niveau du travail et on décidait plutôt d'aller du côté des CFF ou de la Poste. Raison pour laquelle j'ai fait l'école d'administration à Bienne, école relativement dure, mais dans laquelle on avait la possibilité justement d'aller à la Poste. Malheureusement, pour des raisons très certainement de compétences, je n'ai pas été retenu pour la grande régie fédérale.
Et aujourd'hui, une carrière plus tard, vous êtes content du choix finalement ?
Exactement, très heureux.
Vous avez ensuite travaillé dans divers établissements avant de venir à Courtlary. Pourquoi ce choix-là ?
Alors, de par l'apprentissage, dès le départ, j'ai fait mon apprentissage à la Banque Populaire Suisse à Saint-Imier. Durant 2 ans, j'ai eu l'occasion de pouvoir réduire en somme mon apprentissage d'une année de par mes connaissances. Une période extrêmement enrichissante, humainement parlant et au niveau du métier.
Alors au fil du temps, ce métier, vous l'apprenez, vous gravissez les échelons. En 2014, vous devenez directeur, c'est à la suite d'un drame. Le directeur de l'époque disparaît lors d'une randonnée à l'étranger et n'est jamais retrouvé. Comment est-ce que vous avez vécu ces événements et cette transition qui a été plus rapide que prévu ?
Alors effectivement, c'était une période qui était assez pénible, c'était un choc pour l'ensemble du personnel. Il n'était pas prévu que mon directeur, M. Daniel Pérégentil, ne revienne pas de son périple en Corse. Je dirais aujourd'hui, on part du principe que ça fait partie de l'histoire, malheureusement pour nous, malheureusement aussi pour sa famille. C'était une période qui était assez pénible, assez intense, mais on en retient tout le temps quelque chose par rapport à ça. On a eu, je dirais, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de respect de la part du personnel, de la part des clients. Pendant cette période, on a pu travailler sereinement pour conserver en somme le bateau sur sa ligne et de pouvoir continuer et de faire notre travail.
Et en 5 ans, aujourd'hui, cet impact, vous le sentez encore ou c'est passé, même si ça reste dramatique?
Je dirais exactement. Si, je crois qu'il n'y a pas un mois où moi ou mes collègues n'avons pas une discussion ou un questionnement de la part de la clientèle qui nous parle de ce cas. Parce qu'il faut savoir quand même que M. Pérégentil était quelqu'un de très connu, d'apprécié, de respecté. Et je crois que sa mémoire restera grave, et non seulement dans l'histoire de la banque, mais aussi dans la mémoire des gens qui l'ont connu.
Alors l'histoire de la banque, justement, on va en parler maintenant. Tout commence en 1829 sous l'impulsion d'un pasteur bien connu dans le vallon de Saint-Imier, le doyen Morel. Comment ça s'est passé, cette création ?
Alors je pense que la création découle un petit peu de la naissance de la Houppe, qui a fêté il n'y a pas si longtemps ses 200 ans, donc c'était en 1816, où il a fallu un petit peu rassembler certaines personnes influentes afin de permettre à des personnes nécessiteuses, à des personnes malades, à des orphelins, à des familles de situations précaires, de pouvoir quand même être entourées, être guidées, de pouvoir les amener à un développement personnel et social relativement cohérent. Et tout naturellement, ils ont créé la Caisse des pauvres. Je crois que c'était peu de temps après la création. Et c'est de cette Caisse des pauvres qu'est née la Caisse d'épargne, parce que le doyen Morel, lui, souhaitait impérativement que les pauvres puissent également économiser.
Cette histoire-là, est-ce qu'elle vous marque encore aujourd'hui dans l'identité de votre banque ?
Oui. Ben, vous l'avez dit en introduction, hein, vous entrez dans la banque à Courtelary, puis vous voyez l'effigie du doyen Morel, vous voyez sa phrase ou sa maxime, hein, ceux qui achètent le superflu finissent par vendre le nécessaire. On a toujours cette base dans la discussion ou dans les entretiens qu'on a avec la clientèle. On est fier de dire que notre banque a été créée par un pasteur, ce qui est totalement, non-sens par rapport à une situation normale. Ces origines-là, on les garde, on les préserve, puis peut-être qu'on cherche même à les développer.
Alors avec le temps, des succursales sont ouvertes dans d'autres localités, à Tramelan, Saint-Imier, Sonsbeau et finalement à La Chaux-de-Fonds en 1998. Et là, surprise, la mentalité n'est pas la même et il faut s'adapter. Qu'est-ce qui changeait à La Chaux-de-Fonds par rapport au Jura bernois ? C'est pas si loin.
C'est pas si loin, mais je pense que si on... Enfin, nous, on a découvert qu'en discutant avec nos amis chaux-de-fonniers, ils ne connaissaient pas si bien le vallon de Saint-Imier. Ils sont plutôt sur l'axe sud qui va direction Neuchâtel et Genève. Et puis la mentalité des villageois n'est pas la mentalité des gens de la ville. C'est essentiellement là qu'on voit la différence. Je pense que dans notre région, les gens sont plus enclins à discuter avec les personnes. Je pense que la relation sociale est beaucoup plus importante qu'en ville, où les gens sont beaucoup plus, je dirais, indépendants et un peu égoïstes, quelque part.
Alors après quelques années, vous avez réussi à prendre vos marques, quand même, à La Chaux-de-Fonds ?
Oui, tout à fait. Oui. Je crois qu'une fois que la glace se brise, les gens redeviennent tout à fait corrects et identiques aux autres. Et on a un développement qui est à la hauteur de nos espérances actuellement.
Alors vous avez ensuite rejoint le réseau Clientis, qui regroupe aujourd'hui 14 banques régionales. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce réseau-là ?
Alors ce réseau-là nous apporte essentiellement une cohérence dans nos tâches. Quand je dis une cohérence, c'est beaucoup dans le domaine, je dirais, qui n'est pas en lien direct avec la clientèle, mais tout ce qui est législatif. Tout ce qui a trait à l'informatique, tout ce qui a trait au marketing de base, à l'image même du groupe, ça nous décharge énormément. On a des spécialistes qui ont été formés pour ça et qui peuvent occuper leurs tâches essentiellement à ces différentes missions qui leur sont données. Ils le font de manière excellente pour l'ensemble des banques. Ce qu'il faudrait peut-être juste préciser, c'est que notre banque, la Caisse d'épargne de Courtelary, est la seule banque romande du groupe. Aujourd'hui, 15 banques forment encore ce groupe. Nous sommes la seule banque belge. Et moi et mon président, on a toujours un grand plaisir à rencontrer nos collègues, je ne vais pas dire d'outre-Sarine, mais d'outre frontières linguistiques, pour échanger dans leur langue et dans notre langue.
D'un autre côté, ce type de structure, est-ce que ça vous fait un peu perdre en indépendance ?
Non, pas du tout. Non, ça nous permet de nous concentrer essentiellement sur nos activités. Les décisions, on les prend à Courtelary. Il y a des règles de base qui sont dictées par le groupe Clientis, mais auxquelles on a totalement adhéré, puisqu'on est actionnaire et créateur de ce groupe. Mais pour le reste, alors, toutes les décisions se prennent chez nous. Donc j'estime qu'on a encore plus d'indépendance qu'avant par rapport à ça.
Alors avant de continuer, on va justement se rendre dans vos locaux, dans votre centre à Courtelary, pour découvrir ce qui se passe dans les coulisses de cette banque. Vous avez fait faire le tour du propriétaire à Nadia.
Sortie de boîte.
Nous nous trouvons ici au siège de la banque, à Courtelary, dans le hall, premier lieu d'accueil pour notre clientèle. Et après, on est directement devant les guichets.
Est-ce qu'on passe derrière justement ces vitres ?
On va passer derrière ces vitres, oui, de manière tout à fait exceptionnelle. Oui.
C'est parti.
Alors maintenant, on se trouve ici à l'arrière-caisse, du côté des employés. Il y a toute la sécurité qui est organisée pour que les gens ou les clients ne puissent pas venir de ce côté-là. Et puis ce service est dirigé par Madame Lirti, ici présente.
Cindy Lirti, je suis responsable du cash service de Courtelary.
Et votre travail ici, il consiste en quoi exactement ?
On reçoit d'abord le client au guichet, on fait tout ce qui est versement, prélèvement et tout le change. et également des ouvertures de comptes, relations. On s'occupe aussi de tout ce qui est prévoyance, le deuxième et troisième pilier. On a aussi une certaine partie des placements qui se trouvent dans notre service. On fait de la planification financière. On s'occupe également d'apprentis.
Moi, ça m'intéressait beaucoup quand j'étais petite, c'était de découvrir ce qu'il y a un peu derrière le guichet. Est-ce qu'on peut y faire un petit tour ?
Bien sûr. On a au guichet forcément un ordinateur et on a tout ce qui est caisse ouverte. Donc on a de l'argent, hein, tous les coupures des billets, les monnaies. On a aussi des rouleaux. Pour les manifestations, des fois, les gens nous demandent des rouleaux. On a eu récemment la fête de lutte du Jura bernois. Là, ils nous ont demandé passablement de monnaie.
Si on se retrouve dans le service des crédits, plutôt du côté des conseillers et des assistants conseillers. Donc, c'est les personnes qui sont en relation directe avec les clients, qui analysent leurs besoins, hypothèques et autres. Suite logique au niveau de la visite, c'est le service administratif des crédits. C'est le cœur du service des crédits, se trouve ici à Courtelary. Ici, on se trouve au bureau de la comptabilité. Et puis, en face du bureau de la comptabilité, nous avons le marketing. On se trouve dans les bas-fonds de la banque, respectivement dans le trésor de la banque ou plus particulièrement dans les safes. C'est un service que l'on offre et je crois que d'autres banques le font aussi pour la clientèle qui souhaite déposer des valeurs sans que l'on sache ce qu'il y a dedans. Donc ce n'est pas ça qui nous importe. On essaie juste d'éviter à ce qu'il y ait un maroil ou bien quelque chose qui sente fort et puis qui reste pendant quelques temps. C'est ensemble la première image de la banque. On voit les trésors, on voit les safes.
Sortie de boîte.
Rémi De Philippis, les mauvaises surprises dans les coffres, vous en avez déjà eu ?
Non.
Heureusement ?
Pas à ma connaissance, heureusement, oui. Ouais. Non, non. Pas un trou de l'autre côté du coffre non plus.
Ça vous arrive de devoir les ouvrir parce que plus personne ne s'en occupe depuis des années ?
Oui. Ça arrive parfois, alors pour deux raisons. La première, c'est parce que le client a perdu ses clés. Donc nous, on n'a pas de double pour entrer dans le coffre. Et puis la deuxième raison, c'est effectivement, le coffre n'est plus utilisé, la personne n'est plus atteignable. Après un certain temps, on est obligé d'ouvrir le coffre, de faire forcer le coffre pour voir le contenu.
Et là, qu'est-ce que vous en faites de ce que vous trouvez ?
Alors, il y a un protocole. On n'est pas tout seul, il y a des témoins. En général, on essaie de prendre un notaire qui vient faire un état des lieux. Et puis après, on est dans toute la procédure dite de recherche du client. Et je dirais qu'en règle générale, si le client a disparu, à mon avis, il n'y a plus rien dans le coffre.
Alors les banques, il en existe de toutes les tailles. La Caisse d'épargne de Courtelary est une petite banque régionale. Comment est-ce que vous vous démarquez face aux géants du secteur ?
De par notre proximité. Ça, c'est la partie principale. De la disponibilité, de la proximité, du sérieux de ce qu'on fait, du conseil, je dirais, un petit peu global. On ne s'arrête pas à parler que du sujet qui concerne le client. On essaye un peu de faire le tour de la question, de lui apporter une plus-value et aussi une stabilité, je dirais, au niveau du personnel. En règle générale, quand vous avez une personne de contact, vous avez un client qui vient vers vous, qui se confie à vous, ben, il a beaucoup de chances que son conseiller vive une bonne période avec lui et qu'il n'y ait pas toujours des changements comme ça peut très souvent se passer dans les grandes banques.
Alors la proximité, est-ce que ça a encore du sens en 2019 alors que la majorité des transactions et la gestion des comptes peuvent se faire en ligne ?
Alors, étonnamment, oui. On est sorti d'une assemblée il n'y a pas si longtemps. Il y a une étude qui a été faite par les hautes écoles de Lucerne qui mentionnait ou qui nous ont démontré que le contact client était la chose la plus importante pour la population dans un panel de gens qui ont été audités. Donc oui, c'est quelque chose encore extrêmement important.
Cette proximité, elle passe aussi par vos actionnaires, hein, qui ne sont autres que 30 communes et bourgeoisies de l'ancien district Courtelary. Ça vous donne aussi un certain devoir moral d'avoir des actionnaires vraiment locaux.
Alors oui, bien sûr. Je dirais même qu'on est assez fiers que nos actionnaires sont les communes du district ou de l'ancien district, que ce soit les bourgeoisies ou les municipalités. Ça prouve qu'on amène aussi quelque chose. On est un soutien, on est un partenaire pour eux dans tous les domaines. Puis à la fin, il y a quand même aussi une restitution qui leur revient sur la base des résultats de la banque.
Par rapport aux grandes banques, une question se pose. Dans de nombreux domaines, on constate un retour au local, qu'il s'agisse d'alimentation, d'artisanat. Vous le voyez aussi dans les banques, ce retour au local, à l'envie de travailler avec des petits établissements qui viennent de chez nous.
Oui, On le voit de par la clientèle déjà, qui se détourne un petit peu de ces grands établissements qui sont anonymes. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus fréquemment, aussi de par les habitudes que certaines banques imposent à leur clientèle. Et nous, de notre côté, c'est aussi un créneau qu'on souhaite développer. C'est de travailler local, c'est de travailler avec des artisans locaux. C'est de soutenir, d'aider et de développer ce qui est possible de se développer ici dans cette économie de notre région.
Une autre manière de vous démarquer, on le mentionnait en introduction, c'est d'avoir laissé tomber la cravate et assoupli le code vestimentaire en 2017. D'ailleurs, ça vous a valu quelques articles à l'époque. Je ne sais pas si vous étiez les premiers, mais en tout cas dans les précurseurs. Pour vous, le banquier tiré à quatre épingles, c'est dépassé?
C'est dépassé aujourd'hui, oui et non. C'est, je dirais déjà, je remercie RGB. Hein. C'est quand même RGB qui nous a provoqué, qui nous a aidé à provoquer ce changement. De par des reportages que vous aviez fait, la personne qui était en ligne, qui a un petit peu provoqué le monde bancaire en disant qu'on était très rigide. J'ai souhaité rencontrer cette personne et puis on a réussi à bâtir quelque chose pour sortir de ce créneau-là. Notre objectif à nous, c'était d'être comme notre client. Notre client, il vient à la banque, que ce soit un agriculteur, que ce soit un artisan, que ce soit un industriel, un horloger, il vient dans son habit de travail, il est naturellement mieux posé que nous, il est plus à l'aise, on a voulu aller un peu dans cette direction-là.
Et 2 ans plus tard, quel bilan est-ce que vous tirez de cette décision ?
Magnifique. Magnifique dans tous les sens, on n'en parle plus, les gens se rencontrent, les gens ne font aucun commentaire. On parle de ce qu'on a besoin de parler, on se concentre sur notre travail et sur les besoins du client.
Il y a quand même eu des réactions étonnées ou choquées au début, ou c'est passé comme une lettre à la poste, tu as envie de dire ?
Non, c'était un petit peu de la moquerie au début, mais de la moquerie gentille, de par les articles qui ont paru dans les journaux. Je crois que tout s'est bien passé. C'était aussi peut-être à la limite un petit coup de publicité quand on nous parle du banquier sans cravate, du banquier qui accroche sa cravate ou sa pince. C'est plus rigolo et marrant qu'autre chose.
Alors on va parler d'image maintenant. Un couple, un père et sa fille jouant à la console, 2 générations au sein d'une entreprise familiale. Ce sont autant d'images qui tournent sur la page d'accueil de votre site internet. Est-ce que vous ciblez justement particulièrement les familles et les PME ? Pour quelle raison ?
Parce que c'est la base même d'une relation, c'est la famille. Je crois qu'à la fin, chacun va défendre un peu son patrimoine. Il ne va pas défendre ce qu'il a réussi à gagner en plus, mais vraiment défendre la famille, défendre sa maison, défendre ses intérêts et autres. Donc c'est ça qu'on recherche nous aujourd'hui, c'est vraiment cette base-là pour pouvoir aider, soutenir et développer. Donc la jeunesse aussi, c'est un créneau extrêmement, extrêmement fort, c'est le futur de demain.
Dire au client que sa banque est proche de lui, c'est un peu le message que toutes les banques veulent faire passer. Hein. Message attractif, mais parfois mensonger. Après les crises et les scandales de ces dernières années, est-ce que vous devez convaincre davantage que vous êtes de bonne foi quand vous tenez ce discours, ou bien les gens font encore confiance à leur banque ?
Alors, j'espère que les banques font encore confiance à leur banque, pour la simple et bonne raison que c'est le jour où il y a des difficultés. Que le client voit vraiment le rôle de son banquier. Est-ce que le banquier va lui tourner le dos ? Ou bien il va plutôt l'accompagner dans sa période difficile. Donc nous, on est plutôt dans ce créneau-là. On cherche des solutions. Et puis je pense que c'est cette clientèle-là avec laquelle on a réussi à sauver quelque chose qui pourra plus encore confirmer qu'effectivement, on est une banque de proximité.
Ça fait aussi partie de cet héritage du doyen Morel que vous évoquiez tout à l'heure.
C'est tout cet aspect social et de proximité.
Alors être une petite banque, ça pose aussi un certain nombre de défis. Vous parlez de visibilité avant avec des articles. Vous êtes un peu David contre Goliath hein, dans ce domaine-là avec les grandes banques. Comment est-ce que vous faites pour lutter dans le domaine de l'image ?
Alors je dirais, le domaine de l'image, c'est une chose. Après, c'est le domaine des compétences et des moyens. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut faire fi de tous les défis. Il faut anticiper les habitudes des gens. On est dans un monde moderne où la clientèle d'aujourd'hui et plutôt la clientèle de demain aura des exigences. Et je pense que là, grâce à notre groupe Clientis, on a des personnes compétentes qui réfléchissent, qui réussissent à mettre sur pied des produits, des moyens à disposition. Et puis aujourd'hui, je crois que, mis à part la grandeur de l'établissement, on n'a pas moins de moyens qu'une grande banque.
Justement, la jeunesse, elle est sur son smartphone, elle est sur Internet, elle ne sait même plus forcément comment fonctionne une banque ou où se trouve sa banque. Là, ça pose aussi des questions dans la manière dont il faut communiquer avec ses futurs clients.
C'est un défi. Ça, c'est un véritable défi de savoir comment communiquer, qu'est-ce qu'une banque représente pour la nouvelle clientèle. J'ai eu une expérience personnelle avec une de mes filles qui ne savait pas comment procéder à changer de l'argent en euros. Elle se posait la question où c'est qu'elle devait aller, comment est-ce qu'elle devait faire. Donc ça, c'est véritablement ce qu'on doit nous défendre, ou respectivement ce qu'on doit montrer à la nouvelle clientèle, raison pour laquelle on est très intéressé d'avoir ce genre de clients.
Un dernier défi qu'on va aborder, c'est celui des règles internationales. Elles ont beaucoup évolué dans le domaine bancaire ces dernières années. Quel impact ça a pour vous, qui êtes une banque qui travaillait vraiment localement ?
Énorme. Énorme, c'est une tâche énorme. C'est les exigences qui existent pour les grandes banques sont également valables pour notre établissement. La grande différence entre une grande banque et nous, c'est que nous sommes de petite taille, nous sommes peu de collaborateurs, et ces collaborateurs doivent être multitâches, et notamment dans le domaine de tout ce qui est réglementation. On doit véritablement respecter, on doit prouver, on doit faire nos preuves, respectivement, on doit démontrer qu'on respecte ces règles. Il y a des contrôles qui sont énormes, de ce côté-là, je dirais, il y a une pression assez importante.
Rémi de Philippis, une dernière question avant de se quitter. La Caisse d'épargne de Courtelary, c'est aujourd'hui 5 succursales, 34 employés. Vous prévoyez encore de grandir, ou vous avez atteint vos objectifs en termes de croissance ?
Je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter. Aujourd'hui, je pense qu'il faut consolider les bases du Doyen Morel. On va continuer dans la direction dans laquelle on est allé depuis de nombreuses années. Et s'il y a une opportunité de développement, on ne va surtout pas la rater.
Rémi de Philippis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Et de notre côté, on retrouve Marie-Lise Saillard et sa traditionnelle chronique horlogère.
Pile à l'heure.
Le polissage, c'est une étape très importante à la fin de la fabrication des pièces horlogères métalliques. Pour pouvoir polir, on utilise un banc de polissage. Le patron de l'entreprise biennoise Technofinish nous présente un de ses modèles. Vincent Bon.
On a un système d'aspiration qui est relativement nouveau, unique, et surtout un bruit qui est très bas. Donc l'avantage, c'est qu'on a une très bonne aspiration et on a très peu de bruit. Là, sur un poste comme celui-ci, on est à 64 décibels, ce qui est relativement bas, quand on est en pleine puissance. Et on a suffisamment d'aspiration pour pouvoir travailler même à moitié du volume d'aspiration. Et là, on n'entend plus du tout l'aspiration. C'est quelque chose qu'on a développé à l'interne, contrairement à tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, où le nettoyage du poste se faisait soit par l'arrière, soit par le côté. Là, il se fait par l'avant. Ça, c'est jamais fait. Donc, on l'a fait il y a 4 ans. On a travaillé avec une autre compagnie qui nous achetait nos postes. D'ailleurs, en Suisse, finalement, pour l'instant, jusqu'à maintenant, nous, on est les seuls fabricants de ces postes-là.
Esthétiquement, ça pourrait ressembler à un établi, hein, finalement. Et puis dessus, on est venu y fixer justement l'engin de polissage.
Le moteur de polissage avec les axes qu'on peut changer directement, manuellement. Et tout est intégré. On a intégré dans ce poste-là aussi, à l'arrière, un filtre, ce qu'on appelle un filtre absolu. Et avec ce filtre absolu, l'air qui ressort est filtré à 3 microns pour éviter que toutes les pollutions restent dans l'atelier.
Là, il y a un écran tactile.
Oui.
Là, vous appuyez sur Start.
Oui. Et puis, donc, l'aspiration démarre. Donc, le moteur ne démarre pas.
Bon, là, il y a un peu de bruit ambiant. Il y a des gens qui passent, il y a un peu de musique, mais... Il faut qu'on se penche pour entendre l'aspiration. Ouais, elle est discrète. Alors on voit que ça marche, on fait le petit test effectivement avec un mouchoir en papier, hop, on voit qu'il est attiré tout de suite vers la grille.
On peut le monter, là on est à moitié, on peut le monter à fond. Là on est à fond, l'aspiration qui est à 1400 m3, mais ça reste très confortable.
Pile à l'heure.
Sortie de boîte, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Ascension oblige, nous vous proposerons de redécouvrir l'un de nos invités en nouvelle diffusion. Et nous serons de retour en direct le 6 juin avec Alexandre Rosset aux commandes. D'ici là, bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Sortie de boîte.